Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Ce week-end, les Gilets jaunes étaient de retour dans les rues pour le premier anniversaire du mouvement. Samedi, 28 000 personnes ont manifesté en France, selon le ministère de l'Intérieur, à quelques jours de la grande grève contre la réforme des retraites. Cet anniversaire marque-t-il une reprise des manifestations en France? Pour en parler, nous accueillons Jérôme Fourquet. Bonjour Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP et on vous doit un livre qui a été très largement commenté, intitulé « L'archipel français » paru aux éditions du Seuil. On va reparler de cet archipel et de la France, mais auparavant, puisqu'il y a eu les informations, et puis dans la revue de presse internationale, il est souvent question des différentes manifestations qui ont lieu à Hong Kong, au Chili, en Bolivie ou dans d'autres pays. On parle même ce matin dans la presse d'un nouveau printemps arabe, du fait de ce qui se passe au Liban, en Algérie. Bref, s'agit-il d'un mouvement mondial ?
Alors je pense qu'il faut faire attention, c'est pas parce que les mouvements se déroulent au même moment qu'on a une grande vague comme on a eu le printemps des peuples au 19e ou le printemps arabe il y a quelques années maintenant. Dans certains pays, il y a des causes qui sont quand même très très particulières. Par exemple, ce qui se passe à Hong Kong, à mon avis, n'est pas du tout comparable à ce qu'on peut connaître dans d'autres pays. Une fois qu'on a dit ça, on a quand même dans un certain nombre de cas, je pense notamment au Chili, des éléments qui peuvent en Irak ou au Liban, des éléments qui peuvent en partie ressembler à ce que on a connu en France, c'est-à-dire un soulèvement d'une partie des catégories populaires et de la classe moyenne sur des problématiques de fiscalité, de pouvoir d'achat, avec un très fort sentiment d'inéquité ou d'inégalité face à un sommet de la pyramide qui s'exonérerait d'efforts ou serait avantagé fiscalement ou par sa position sociale. Et tout ça se passe aussi après la grande crise de 2008-2010. Et on sait qu'historiquement, c'est pas dans les crises économiques et sociales que les tensions sont les plus fortes. C'est en sortie de crise, quand les efforts ont été faits et qu'il y a un sentiment d'injustice qui s'est pendant trop longtemps manifesté à bas bruit et qui éclate à un moment pour une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça a été la hausse des prix des carburants en France. Au Chili, c'est l'augmentation de quelques centimes de pesos du ticket de métro qui a fait sortir les gens dans la rue. Autre élément de comparaison, quand ces soulèvements ou ces mouvements sociaux se produisent, ils se font aujourd'hui manifestement complètement à l'écart des grandes organisations que sont les partis politiques ou les syndicats, qui regardent souvent en spectateurs. Souvent, ils n'ont pas même eux-mêmes vu venir la fumée, si je puis dire. Et donc ça, c'est un élément de comparaison qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aussi une défiance vis-à-vis de tout ce qui est autorité ou corps constitué.
Ce qui est quand même là, effectivement, quelque chose de nouveau, Jérôme Fourquet, parce que auparavant, il y avait des canaux, alors des canaux politiques ou alors des canaux institutionnels et corps intermédiaires. Il suffisait de les bloquer ou de négocier avec eux pour qu'il n'y ait pas véritablement de mouvement. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'impossible, qu'il s'agisse du Chili ou de la France.
Alors, effectivement, alors on peut y voir des éléments sociologiques sur la défiance vis-à-vis de ces corps constitués, ou le fait qu'ils soient coupés de la base de la population, donc ils n'arrivent plus à saisir les préoccupations. Il faut aussi, je pense, ajouter les évolutions technologiques, les réseaux sociaux, qui jouent un rôle majeur dans ces mobilisations, c'est-à-dire qu'on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, on le voit manifestement dans ces pays, on peut, sur des bons slogans, avec quelques personnes très déterminées, arriver à lever des dizaines de milliers de personnes et à organiser des manifestations sans disposer pour autant de sections ou de cellules dans chaque quartier, chaque ville ou chaque village. Aujourd'hui, c'est aussi ça. Et donc, cette révolution digitale, eh bien, elle a des répercussions aussi sur le plan des luttes sociales.
Mais alors, ça rend votre métier de sondeur beaucoup plus difficile, le nôtre aussi, de journaliste. Mais en l'occurrence, si je vous pose cette question, c'est parce que on vous demande un certain nombre de prophéties sur la convergence des luttes ou l'absence de convergence des luttes. Comment vous pouvez faire votre métier et finalement les différents chiffres, parce que depuis le début on a parlé de ce qui se passait dans la rue et puis on a parlé de bataille de l'opinion et les sondeurs, pas seulement vous, Jérôme Fourquet,
oui, bien sûr,
on produit un certain nombre de chiffres disant que finalement ce mouvement était très populaire. Qu'est-ce que ça signifie? Comment vous faites vous aujourd'hui pour donner des chiffres sur un mouvement qui est très différent de ce que l'on a vu auparavant? Et là je parle de la situation française, bien sûr.
Alors, il faut bien savoir ce qu'on mesure. Et quand on mesure le soutien ou la sympathie, les mots parlent d'eux-mêmes. C'est une disposition d'esprit, une attitude vis-à-vis d'un mouvement. Et ça ne veut pas dire que les gens qui soutiennent ou ont de la sympathie vont se joindre aux manifestants et encore moins organiser des barrages ou des blocages. C'est juste une attitude, un regard que le reste de la société porte sur ces mouvements. Il reste relativement positif concernant les Gilets jaunes. Les sondages qu'on a pu réaliser la semaine dernière montraient que à peu près 60% de la population continuait d'avoir soit du soutien ou de la sympathie vis-à-vis de ces gilets jaunes. Quand on réduisait et qu'on durcissait un petit peu les items, 10% des Français se considéraient eux-mêmes comme gilets jaunes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient sur les ronds-points ou qu'ils ont participé aux manifestations, mais c'est qu'ils se reconnaissaient dans ce mouvement. Donc il reste un soutien relativement populaire à ces mouvements. Toute la question, on le voit, c'est d'inscrire le mouvement dans la durée et de passer à du soutien et de la sympathie qui coûte assez peu cher dans un sondage, à un engagement plus physique, plus personnel. Et là, on voit qu'il y a des pertes en ligne qui sont quand même importantes. Le chiffre de 28 000 personnes qui se sont mobilisées samedi est en soi assez important. C'est pas négligeable. Il faut toujours ramener à la population française, c'est 45 millions de personnes de plus de 18 ans. Donc, on voit un petit peu ce qu'il en est.
Là, ça n'est quand même pas si important.
Non, mais on était quand même un an après. Et donc, on voit qu'il y a quand même des ferments de cette colère qui ne sont pas éteintes. Ces braises, elles sont toujours là, même si dans sa forme qu'on lui a connue, je pense que le mouvement est plutôt sur le déclin aujourd'hui. D'où le fait que, et tout le monde l'a bien noté, on ait une attitude de ces gilets jaunes qui soit aujourd'hui bien plus ouverte vis-à-vis du mouvement syndical, alors qu'il s'est volontairement mis à l'écart et à distance pendant tout le conflit de ces fameuses organisations syndicales par risque de récupération. Donc c'est sans doute que la base gilet jaune, en tout cas ce qu'il en reste, est consciente de ses faiblesses et qu'il faut essayer de se trouver des alliés aujourd'hui.
Mais lorsque vous dites qu'il y a 60% de sympathie, est-ce que par exemple ça veut dire tout simplement qu'il y a 60% d'opposants au gouvernement ?
Alors, bien évidemment, vous avez raison, ça correspond d'ailleurs à ce qu'on mesure dans d'autres sondages en termes de niveau d'impopularité du président de la République, c'est à peu près 65%. Donc on est à peu près dans cette épure-là. Et on avait d'autres, Stéphane Rosès avait, un autre sondeur avait employé le terme de grève par procuration en 1995. On va peut-être parler de cette date tout à l'heure pour le conflit qui s'annonce pour le 5 décembre, en disant que les Français avaient fait grève par procuration en soutenant le mouvement des cheminots et des agents de la RATP à l'époque. Là, il y a sans doute un mécontentement par procuration qui s'est exprimé dans les sondages par un soutien aux Gilets jaunes qui sont apparus aux yeux du grand public comme étant les opposants principaux à Emmanuel Macron, agrégeant en cela toutes les colères, les frustrations et les mécontentements. Donc quand il s'agit de faire le tri et d'élaborer une plateforme revendicative, c'est beaucoup plus compliqué, mais l'atout principal, c'était de pouvoir être le réceptacle de tous les griefs qu'on avait à reprocher au président de la République, et donc effectivement, ça brasse très très large.
Mais oui, mais le problème, c'est qu'en fait, dans l'archipel français, le livre que vous avez publié aux éditions du Seuil, Jérôme Fourquet, vous insistiez sur le fait que la société française était assez atomisée. Or, là, il y a des revendications qui sont non seulement hétérogènes, mais qui peuvent même être contradictoires. Et donc, il y a l'hypothèse de la convergence des luttes. C'est par exemple ce que défend l'humanité aujourd'hui. Mais quel lien y a-t-il entre des petits artisans, des auto-entrepreneurs qui considèrent qu'ils payent trop de charges et des salariés de la SNCF qui, eux, veulent que leur statut soit pérennisé? Est-ce qu'il peut y avoir convergence des luttes entre ces deux revendications?
Alors ça va être très très compliqué, ça l'est déjà. Et c'est pour ça que la sociologie des gens qui se sont reconnus au début dans le mouvement des Gilets jaunes était une sociologie particulière. On a dit tout à l'heure qu'ils étaient très éloignés des organisations syndicales. Il y avait effectivement une surreprésentation d'indépendants, d'artisans, d'auto-entrepreneurs, aussi de salariés du privé, les fameux salariés de la logistique, les caristes, les chauffeurs routiers, les préparateurs de commandes, les gens qui travaillaient dans la grande distribution, autant d'univers qui sont très peu syndiqués. Et c'est pour ça sans doute aussi que les organisations syndicales n'avaient pas vu monter ce mouvement. Quand il s'agit d'agréger en contre sur une hostilité au gouvernement, eh bien les différentes îles de l'archipel peuvent converger ensemble. Quand il s'agit d'élaborer un certain nombre de revendications, ça devient plus compliqué. On en a eu une illustration avec une incapacité des figures du mouvement des Gilets jaunes à se mettre d'accord les uns avec les autres parce qu'ils venaient d'horizons divers, ils n'avaient pas forcément les mêmes préoccupations. Ça sera sans doute la même chose pour le conflit du 5 décembre, à ceci près que la balle là est quand même pas mal dans le camp du gouvernement. Il peut y avoir un front commun qui se dessine sur la question de la réforme des retraites, qui là peut s'appliquer à la fois aux indépendants, aux artisans, aux salariés du privé et également aux salariés des régimes spéciaux qui peuvent tous avoir le sentiment d'y perdre. Pourquoi je dis que c'est le gouvernement qui a la balle dans son camp aujourd'hui? C'est parce que si le format de réforme n'est pas précisé d'ici là, c'est les opposants qui vont inscrire le cadre général dans lequel les choses vont se faire et qui vont pouvoir marteler le fait que tout le monde a à perdre dans cette réforme et que donc du coup il est de l'intérêt de tout le monde de converger, de s'agréger pour faire barrage au gouvernement.
Parce que la retraite, est-ce que c'est aujourd'hui susceptible de mobiliser comme l'a été le pouvoir d'achat? Alors pour certaines catégories de salariés, on le comprend bien puisque ces régimes spécifiques sont des raisons pour lesquelles on décide de faire tel ou tel métier, Jérôme Fourquet. Mais pour le reste, est-ce que c'est un sujet qui peut être aussi inflammable? Et des gens qui ne disposent pas de régime spécifique vont-ils accepter de lutter pour devenir là aussi des défenseurs d'autres régimes dont ils ne disposent pas?
Alors, ce sera pas, la principale motivation, ce ne sera pas de défendre le régime des autres, le régime des retraites des autres, c'est d'essayer de préserver le sien, même s'il est moins favorable que celui des autres. Mais à partir du moment où les organisations syndicales et les opposants au gouvernement parviennent à inscrire dans le débat le fait que cette réforme serait, j'utilise des guillemets, perdant-perdant, que tout le monde aurait y perdre, que cette fameuse question du point serait très anxiogène puisque personne ne connaîtrait avant son départ à retraite à combien équivaudra un point une fois que lui-même sera à la retraite. À partir de ce moment-là, beaucoup peuvent s'estimer comme étant des potentiels perdants de cette réforme. Donc il va falloir regarder dans les quelques semaines qui nous séparent de ce mouvement du 5 décembre si il y a une clarification du projet gouvernemental et quelle est l'opinion des Français. On parlait tout à l'heure de fragmentation de la société française entre les salariés des régimes spéciaux, les salariés du privé par exemple. Il y en a une qui est majeure sur la question des retraites. C'est le statut et l'âge des personnes. Toutes nos enquêtes nous montrent depuis 25 ans, parce que ça fait 25 ans qu'on réforme les retraites en France, que le clivage majeur, il n'est pas gauche-droite, il n'est pas privé-public, il est entre les actifs et les retraités. D'une manière générale, vous avez plus de 2/3 des retraités qui sont favorables à toutes les maquettes de réforme des retraites, puisque jusqu'à présent, elles ont sanctuarisé les pensions et demandé des efforts aux actifs. Et donc, les retraités étaient nombreux sur les ronds-points, il faudra voir si ils sont aussi nombreux à se mobiliser contre une réforme des retraites qui est vendue comme étant la solution pour pérenniser la leur.
Et oui, parce que effectivement, la sociologie du mouvement, elle était quand même assez atypique. On a vu beaucoup de retraités, comme vous le disiez, tenir les ronds-points. On les voit d'ailleurs parfois
encore.
On a vu également d'autres catégories. Alors, on a beaucoup parlé des familles monoparentales, des mères isolées. On a parlé également des personnels soignants, des aides-soignantes, des infirmières. Et ça aussi, cela renvoie à d'autres luttes, d'autres sentiment de malaise, je pense par exemple à la question de l'hôpital public, mais alors là du coup ça se transformerait en protestation de la part d'une partie des fonctionnaires ou en tout cas du système public.
Alors ce qu'on voit effectivement c'est que depuis l'été s'allument successivement différents feux de contestation ou de mobilisation dans la fonction publique en général. Vous avez cité les services des urgences qui sont en mouvements sociaux depuis avant l'été. Cette contagion a touché maintenant toutes les strates de la fonction publique hospitalière, hein, la surprise de beaucoup jusqu'aux médecins ou au personnel encadrant et dirigeant d'un certain nombre d'établissements hospitaliers. Tous ces publics-là sont descendus dans la rue récemment. On a vu ce qu'il en était des enseignants. Nous avons eu aussi, il y a quelques semaines, de manière historique, une très grande manifestation des policiers avec ce qui était historique, c'était que toutes les organisations syndicales policières, elles sont nombreuses, avaient appelé à une manifestation commune. Nous avons eu aussi des mouvements de grogne chez les pompiers. Donc on voit que dans la fonction publique, aujourd'hui, les choses sont extrêmement tendues. Il y a sans doute à la fois des questions de salaire, de rémunération. Le point d'indice a été gelé depuis plusieurs années. Mais il y a sans doute aussi une question du sens, hein, c'est-à-dire que les grands récits idéologiques sont aujourd'hui en crise. Et parmi ces grands récits idéologiques, il y avait celui en France très puissant d'être au service de l'État, de l'intérêt général. Et beaucoup de ces fonctionnaires expriment un sentiment de mépris vis-à-vis qu'ils subiraient de la part qu'ils ressentent de la part de leur hiérarchie, et aussi une incapacité à mener correctement les tâches pour lesquelles ils se sont engagés, en disant on part au plus pressé, c'est criant à l'hôpital, on n'a plus les moyens de faire correctement notre travail, on ne peut pas traiter tout le monde à égalité. Donc il y a un... C'est pas uniquement, et la crise des Gilets jaunes était de mon point de vue un petit peu similaire, ça se réglera pas uniquement avec le chéquier. Ça va faire beaucoup, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est bien plus profond derrière tout cela.
Non seulement ça ne se réglera pas, dites-vous, avec le chéquier, mais alors si on prend par exemple la une de l'Opinion aujourd'hui, l'Opinion, donc journal plutôt libéral, considère que le chéquier dans la crise des Gilets jaunes et les 10 milliards d'euros qui ont été mobilisés par le gouvernement, alors l'Opinion en rajoute un peu plus, mais en tout cas, cette somme-là, elle n'a pas permis de débloquer la crise, ou en tout cas, il y a encore des gilets jaunes dans la rue, Jérôme Fourquet.
Alors, il y a encore des gilets jaunes dans la rue, il faut quand même observer qu'ils sont bien moins nombreux, et que là, c'était quelque part, de mon point de vue, un peu le baroud d'honneur, le premier anniversaire, donc beaucoup se sont dit, on se doit d'être là, en souvenir de tout ce qu'on a fait et de tout ce qu'on a vécu. Je suis pas sûr que tout ça va durer très longtemps. Par contre, cette question des 11 ou 12 milliards qui ont été débloqués, je pense que ça a été très important dans l'imaginaire collectif, parce que ça a nourri l'idée que dans le système actuel et face à ce gouvernement, il fallait introduire un rapport de force assez conflictuel, voire aller jusqu'à la casse pour obtenir quelque chose. Et ça, je pense que c'est une leçon qui va être très longue à dissiper dans les mentalités collectives. Et donc beaucoup de catégories sociales vont s'inspirer de tout cela.
Donc stratégiquement, c'était une mauvaise idée s'il s'agissait bien sûr de ne pas lâcher.
Alors c'est facile de refaire le match après. Il faut se rappeler la situation dans
laquelle les commentateurs sont là pour ça.
Voilà, dans lequel le pays était à l'époque. Mais le fait est que aujourd'hui, beaucoup se disent il faut aller jusqu'au clash. Et on constate malheureusement que la casse paye. C'est ce qui est souvent retourné à beaucoup de syndicalistes en disant regardez, les gilets jaunes en quelques semaines ont obtenu plus que vous en 15 ou 20 ans de lutte. Et donc aujourd'hui, il faut passer à d'autres modes d'action. On a vu fleurir les grèves sauvages, les cortèges de manifestations non encadrés, etc., etc. Et tout ça, c'est les suites ou les conséquences du mouvement des Gilets jaunes.
Jérôme Fourquet, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP et vous avez notamment publié L'archipel français aux éditions du Seuil.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herman.
8h21, et effectivement, pourquoi n'y a-t-il pas de représentants qui puissent prendre le relais, incarner le mouvement des Gilets jaunes? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP, et vous avez notamment publié L'archipel français, paru aux éditions du Seuil, où vous évoquiez un peu cette anomie, ou en tout cas cet éclatement aujourd'hui de la société française, une réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïz.
Je pense que c'est tout à fait pertinent. On peut dégager peut-être deux tendances de fond. La première, c'est la crise du modèle représentatif et la très forte volonté de pouvoir être représenté en direct, d'où le succès du fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, le fait que chacun des leaders qui a émergé dans la crise des Gilets jaunes, à chaque fois, si vous regardez bien les déclarations, disait je parle juste en mon nom et je ne prétends aucunement prendre la parole au nom de tous, parce qu'ils savaient bien qu'ils étaient guettés au coin du bois et que le premier qui s'érigerait sur le pavois serait automatiquement destitué. L'autre point, c'est que dans toutes ces sociétés contemporaines, on voit à l'œuvre les effets de l'individualisme et ce que j'essaie d'expliquer dans le concept d'archipélisation, c'est-à-dire que les collectifs se désagrègent et que chacun entend être son propre représentant. Tout ça est alimenté par les réseaux sociaux. Quelque chose comme Facebook est quand même, de manière anthropologique, très symptomatique de cela, c'est-à-dire qu'on se met en scène soi-même. Et quand on regardait aussi dans le sillage de la crise des Gilets jaunes ce qui s'est passé dans le cadre du Grand Débat, la plupart des gens qui ont pris la parole dans le Grand Débat commençaient à énumérer leurs qualités professionnel, je suis secrétaire, je suis aide-soignante, je suis chauffeur routier, leur situation personnelle, je suis divorcé, j'ai deux enfants, etc., etc., avant même de faire une proposition. Et donc, il n'y avait aucune montée en généralité, à chaque fois, on partait du point de vue individuel. Donc, c'est aujourd'hui aussi une très forte absence de grands récits collectifs qui permet d'agréger, qui permet de fédérer. Et tout ça prend racine, je pense, dans ce très fort développement de l'individualisme. Et donc derrière, évidemment, pour faire émerger des leaders ou converger des points de vue, c'est très très compliqué.
C'est une situation merveilleuse pour les pouvoirs en place, parce que c'est une rente de situation aux européennes. Et il n'y a pas eu véritablement de bouleversement politique. Vous avez un avis contraire, alors, Jérôme Fourquet?
Non. Alors, il n'y a pas eu, aux élections européennes, il s'est quand même passé beaucoup de choses, mais pas forcément en lien direct avec la crise des Gilets jaunes. On voit, par exemple, l'effondrement de la France insoumise, qui passe de 20 à 6%. C'est pas rien. La montée en puissance des écologistes, on verra si elle est confirmée. Et puis, là aussi, la dislocation de la droite. Là, il y a un lien pour cette dislocation de la droite, avec toute une partie de l'électorat de droite qui bascule du côté de La République En Marche, sur le réflexe du Parti de l'Ordre. Hein, donc ça conforte ceux, comme il a été dit tout à l'heure, qui étaient déjà dans la place, en disant, voilà, face à un chaos, et pour reprendre une formule qui avait fait Florès à la chienlit, il faut serrer les rangs. Mais effectivement, on ne voit pas aujourd'hui de force capable de s'agréger, d'émerger spontanément.
Mais alors, du coup, j'ai réfléchi, parce qu'il y a eu d'autres mouvements. Alors, aucun mouvement n'est comparable au mouvement des Gilets jaunes. Mais si on prend, par exemple, un mouvement qui, en Israël, avait pour racine la cherté des logements, en 2011, une sorte de mouvement des indignés, ce mouvement qui avait occupé, par exemple, Tel Aviv pendant 3 mois avec des tentes, alors qui était principalement constitué d'étudiants, mais c'était une colère très générale dans le pays, parce que le niveau de cherté des prix était très élevé. Ce mouvement, paradoxalement, a renforcé Netanyahou, qui d'ailleurs, encore au jour d'aujourd'hui, est très largement au centre de la politique israélienne, même s'il ne parvient pas à former un gouvernement. Est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que l'impopularité des pouvoirs en place, et ça touche aussi Emmanuel Macron, n'est pas finalement synonyme du changement de ces pouvoirs en place, Jérôme Fourquet?
Alors, ça, il faut regarder, là où on a quelque chose d'assez spécifique en France, c'est que a été élu quelqu'un qui a déjà revendiqué de faire imploser le système. Son livre programme s'appelait Révolution. Alors, ça fait sourire et ricaner pas mal de gens sur les ronds-points aujourd'hui, mais c'était une réalité, et il a quand même énormément rebattu les cartes. Il a amené avec lui à l'Assemblée nationale des visages nouveaux. Donc il est dans une situation, on est dans une situation un peu paradoxale où celui qui est dans la place était encore un inconnu du grand public il y a quelques années. Et donc de ce point de vue-là, il y a peut-être une capacité de résistance et de résilience des autorités en place qui est plus importante. Des mouvements complètement spontanés sont parvenus à bousculer, par contre, dans certains pays, les pouvoirs traditionnels. Si on va juste de l'autre côté des Alpes, en Italie, avec le mouvement 5 étoiles, alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais le système politique italien était peut-être plus décomposé que le nôtre, et là on a eu un changement de système qui s'est opéré. Alors sur la longue durée, à ceci près que là il y avait un leader, Beppe Grillo, un tribun qui prenait la lumière. Alors, ce que disait M. Saïs tout à l'heure est intéressant, parce que il n'a pas émergé, lui, des réseaux sociaux. Il avait sa notoriété à l'avance, préalable.
Il était humoriste.
Il était humoriste, il était comique. Et vous avez remarqué que l'icône des Gilets jaunes en France, c'est une icône posthume, c'est Coluche. Beaucoup ont dit si Coluche avait été là, et sans doute, peut-être, les choses seraient-elles passées autrement. Donc soit vous avez une légitimité antérieure, une notoriété qui vous permet à un moment de monter dans le train, si je peux utiliser cette expression, soit il est très difficile de faire émerger des profils au cours de ces mouvements. Et dans votre question sur le lien avec les pouvoirs en place, bah, tout dépend s'ils ont une certaine plasticité ou s'ils sont trop vermoulus et trop anciens pour pouvoir résister à ce souffle de changement.
Il y a aussi l'exemple de Podemos en Espagne avec le mouvement des indignés, mais là aussi, les partis traditionnels, à la fois d'ailleurs en Italie et en Espagne, réussissent à reprendre le dessus au final. Alors, c'est probablement pas une loi des reins, mais en tout cas, c'est ce que l'on observe, Jérôme Fourquet.
Alors, ils reprennent le pouvoir. Quand on regarde en Italie, on a quand même une implosion de la scène politique italienne qui a été majeure. Et en Espagne, on verra ce qu'il en sera, parce que ce qui caractérise toutes ces situations, c'est la grande instabilité. Je ne sais pas à combien d'élections nous en sommes en Espagne. C'est 3 ou 4.
C'est la troisième. C'est la quatrième en 4 ans.
Quatrième en 4 ans. Donc on voit que cette reprise en main se fait au profit d'une multiplication des scrutins.
Et d'ailleurs, ce qui Frédéric est intéressant Seyss. Pour parler de l'Italie, c'est que Beppe Grillo, précisément, a été progressivement évacué de son propre mouvement, le mouvement 5 étoiles, et donc ce n'a pas été un leader durable. C'est maintenant Luigi Di Maio, qui lui aussi est à nouveau contesté par sa base. C'est peut-être le destin aussi de ces personnages qui sont montés assez vite grâce à des mouvements de contestation et qui redescendent tout aussi vite.
Mais alors, dans ces conditions, si on veut prendre la perspective des municipales, est-ce que là aussi des choses pourraient être modifiées ou bien, comme il s'agit d'élections spécifiques, d'élections locales, est-ce qu'il sera bien difficile de voir une conséquence au mouvement des Gilets jaunes sur le scrutin de mars prochain, Jérôme Fourquet?
Alors, c'est un débouché politique pourrait être la multiplication des listes Gilets jaunes au plan municipal. D'après ce qu'on voit, ça n'en prend pas forcément la forme. Sans doute qu'en revanche, un certain nombre de personnes qui se sont éveillées à la politique dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes vont participer à des listes collectives dans lesquelles il y aura quelques gilets jaunes et des personnalités qui viendront d'ailleurs. Par ailleurs, les élections municipales sont par nature des élections locales, mais historiquement, on a toujours eu un effet de balancier, c'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, en règle générale, le parti qui était en place au niveau national, le parti au pouvoir, était sanctionné localement. Ce phénomène-là ne va pas pouvoir se produire cette année, non pas que Emmanuel Macron soit ultra populaire, il y a une insatisfaction qui est au moins aussi importante que pour ses prédécesseurs, mais cette colère ne pourra pas s'exprimer localement contre des sortants qui se revendiquent de son parti, pour la simple et bonne raison qu'il a très peu de sortants en course. Et donc du coup, paradoxalement, il se peut que ce prochain scrutin municipal se distingue ou se caractérise par une certaine stabilité des équipes en place face à un paysage archipélisé, si le maire a bien fait le job et comme il n'est pas lié au pouvoir en place et comme aussi très habilement, qu'il soit du PS ou des Républicains, il aura gommé ou effacé le logo de sa formation politique, il se peut que beaucoup d'entre eux puissent rempiler la prochaine fois.
Autre nouveauté dans le paysage français, j'ai Le Figaro sous les yeux, c'est la question de la violence. Alors, cette question de la violence, elle est interprétée de différentes manières en fonction de l'origine partisane des personnes. Les uns parlent de violence policière, les autres parlent de violence des ultra-jaunes, des black blocs. A-t-on affaire pour la question des black blocs à des phénomènes qui sont sociologiquement extrêmement limités et donc qui ont peu de signification? A-t-on affaire à une violence délégataire, comme on parlait jadis de protestation ou de grève par délégation ou par procuration?
Alors, le phénomène des black blocs, il n'est pas nouveau. Et plus globalement, dans l'histoire sociale française, on l'a un peu oublié, mais on a une tradition de forte violence et de conflictualité. Hein, les grèves dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais avaient été qualifiée d'insurrectionnelle. On avait envoyé la troupe à plusieurs occasions. En 68, même si aujourd'hui un certain nombre de 68ards reconvertis viennent nous expliquer que tout ça était bon enfant, je pense que les effectifs des forces de l'ordre étaient quand même soumis à une rude pression. Mais il est vrai que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, la violence sociale en France avait diminué. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le nombre de compagnies de CRS ou de gendarmes mobiles a été considérablement revu à la baisse parce qu'il n'y avait plus de grandes manifs syndicales, ouvrières, où il fallait pouvoir mettre du bleu en face pour tenir les rangs. On voit un retour de cette forme de violence, à la fois avec les Black Blocs, mais qui sont très très minoritaires, et dont une partie ne vient pas forcément de France. Hein. On sait qu'il y a une internationale qui tourne et qui se mobilise à chaque fois que c'est possible. Mais là où quelque chose s'est produit dans la crise des Gilets jaunes, c'est que cette forme de violence politique ou sociale a aujourd'hui franchi les simples effectifs des Black Blocs pour aller dans d'autres catégories de la population qui était très éloigné de cette culture-là. On a des images très très fortes hein, lors de le conflit des Gilets jaunes, le 16 mars je crois, quand des Black Blocs ont remonté les Champs-Élysées et que la foule des Gilets jaunes s'est fendue en deux et a fait une haie d'honneur pour applaudir les Black Blocs. On a vu notamment des femmes, mais aussi des hommes de toutes conditions sociales, très éloignés du mouvement syndical, faire le coup de poing avec les forces de l'ordre, participer à des pillages ou se féliciter qu'il y ait de la casse. Et donc, on voit là aujourd'hui que certains registres d'action qui étaient complètement illégitimes sont aujourd'hui compris par une partie de la population. Regardez ce qui s'est passé dans les attaques de permanence électorale. L'IFOP avait sondé les Français cet été à ce sujet. 2/3 des Français condamnés, mais 20% comprenaient et 10% approuvaient, notamment dans des catégories qui étaient très éloignées de l'action violente.
Frédéric Saïs.
Il y a une enquête récente du CVPOF et de l'Association des maires de France qui indique que moins d'un maire sur deux compte se représenter aux prochaines municipales en mars 2020. Selon vous, ça répond à quels symptômes ?
Alors, il faut regarder quels sont les maires qui, ou de quelles communes sont issus les maires qui ne souhaitent pas majoritairement se représenter. C'est surtout et souvent, et ils sont très très nombreux, les maires de petites communes rurales où les marges de manœuvre sont restreintes, où la charge de travail est énorme puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur des équipes administratives importantes. Et donc là, il y a un effet burn-out sans doute de la part de toute une partie de ce personnel municipal. Dans les villes mieux staffées, entre guillemets, 10 000, 20 000, 30 000 habitants, je pense que le souhait de pouvoir se représenter va être plus important, mais c'est que quelques centaines de communes. Et donc, il y a aussi un malaise, j'allais dire quasiment professionnel de ces maires de petites communes rurales, et aussi sans doute un malaise civique et une prise de foi au sens existentiel. On parlait tout à l'heure du malaise des fonctionnaires face à une société qui est de plus en plus consumériste et des maires qui disent on a des citoyens consommateurs qui nous prennent pour un guichet et donc on n'y trouve plus notre compte.
Société consumériste, justement, pour reprendre l'archipel français, vous me permettez de citer Jérôme Fourquet. Hein, Jérôme Fourquet.
Vous pouvez.
Alors, je vais le faire. On a affaire à des Black Blocs qui se réclament de l'anticapitalisme. Alors, le terme est assez vague. Peut-être que vous aurez un point de vue là-dessus. Et de l'autre côté, on a affaire à des Gilets jaunes dont l'une des demandes initiales était une augmentation de leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire une meilleure inscription dans le capitalisme. Comment il peut y avoir coalition finalement de ces revendications qui sont presque aux antipodes ?
Je pense qu'il n'y a pas de conciliation possible et qu'il y a un énorme malentendu. Ensuite, les Gilets jaunes ne sont pas d'un bloc. Ils sont très divers. On avait toute une tendance qui vient plutôt de la gauche ou qui était proche des Insoumis et qui peut se retrouver. Il y a des différences de degrés, mais pas de nature, avec les mots d'ordre radicaux des anticapitalistes Black Bloc. On a également une convergence qui est possible avec une partie de la mouvance écologiste autour du thème de la décroissance et de la du frein à la consommation frénétique. Là-dessus, ça peut fonctionner, mais comme vous l'indiquiez, à la base, une bonne partie des Gilets jaunes exprime un problème de pouvoir d'achat. Et pouvoir d'achat, si on prend le terme au sens étymologique, c'est pouvoir acheter. Ce qui se passe dans une société désidéologisée comme la nôtre, c'est que pour toute une partie de la population aujourd'hui, l'identité et la position sociale se construit autour de ce qu'on peut acheter pour soi-même ou à ses enfants et ce qu'on peut s'offrir en termes de loisirs, en termes de vacances. Et donc c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui parlent de mépris en disant voilà, nous on travaille, ma femme travaille, je travaille et pour autant je peux pas emmener mes gosses au cinéma ou partir en vacances. Et donc si je ne peux plus faire ça, c'est que je n'appartiens plus à la société. Et donc là-dessus, il n'y a pas de rupture avec le capitalisme ou avec la société de consommation, il y a juste la volonté de pouvoir participer au banquet.
Et oui, et c'est d'ailleurs un mouvement très important parce que alors, et il faut rappeler qu'il y a des enquêtes sur les valeurs des personnes. Ces enquêtes sur les valeurs, elles ont été menées par notamment une personne qui s'appelle Engelhardt. Et alors pendant très longtemps, on a considéré au terme de ces études qu'il y avait un mouvement qui était de moins en moins matérialiste. Et depuis 20 ans, depuis que la crise est là, le matérialisme est à nouveau là, c'est-à-dire qu'on est vraiment aux antipodes de Extinction Rébellion pour ces personnes qui se réclament du matérialisme, et ils sont très précisément chez ces gens qui réclament aujourd'hui plus de pouvoir d'achat, Jérôme Fourquet, avec une articulation qui est évidente sur la façon dont ils veulent, comme vous le dites, participer au banquet du capitalisme, consommer, parce que c'est aujourd'hui le principal vecteur de statut social, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une brève coalition entre des anticapitalistes et des gens qui veulent consommer plus, ou alors que le quiproquo va se révéler.
Je pense qu'il est déjà en train de se révéler. On peut se mettre d'accord en disant à bas les riches et nous voudrions nous-mêmes avoir une partie de ces richesses. Après, dans la société idéale qu'il faudrait dessiner derrière, je pense qu'il y a un fossé qui est béant entre toute une partie des gilets jaunes qui, encore une fois, aspire à une meilleure intégration au sein de la société, et pour eux, aujourd'hui, l'intégration, ça passe par la consommation, et puis ces anticapitalistes. Dans mon livre, à un moment, je dis, on est passé de la messe dominicale au dimanche chez Ikea, on est bien là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population, et on peut le comprendre, qui, aujourd'hui, se construit statutairement par son accès à la consommation. Le problème, c'est que dans une société comme la nôtre, pour que le système économique fonctionne, il faut en permanence créer de nouveaux désirs, de nouveaux besoins. Et ce qu'on voit là dans cette crise des Gilets jaunes et dans d'autres pays occidentaux, c'est que toute une partie de la classe moyenne ne peut plus suivre le rythme de ces nouvelles, de ces nouveaux désirs et de ces nouveaux biens qui sont mis sur le marché. Et donc, tout ça produit une très forte frustration dans ces milieux.
Et c'est ce qui explique qu'il y aurait finalement, même s'il y a donc des manifestations bruyantes d'hostilité au capitalisme, à côté de ça, la gauche et plus encore l'extrême gauche demeure minoritaire dans les scrutins.
Oui, tout à fait, on le voit. Il faut regarder ce qui se passe du côté de l'écologie, où là, par un autre biais que l'anticapitalisme traditionnel, on peut avoir une critique de la société de consommation en disant vous voyez bien que tout ça est une impasse et que ça nous amène dans le mur. Mais beaucoup des milieux populaires et de la classe moyenne, beaucoup de personnes qui appartiennent à ces milieux, ne sont pas prêts à faire le deuil de ce modèle-là. Mais il faut bien voir que ce modèle-là leur a été vendu matin, midi et soir depuis plusieurs décennies maintenant.
Frédéric Saïs.
Comment interpréter dans ce contexte le fait que l'idée souverainiste, économiquement notamment, a infusé progressivement dans beaucoup de partis assez différents entre eux, jusqu'aux Verts qui, aux dernières européennes, ont demandé à ce qu'il y ait des barrières tarifaires à vocation verte aux frontières de l'Union européenne. Il y a 20 ans, c'était une proposition qu'on aurait pu retrouver chez un Philippe Séguin et je sais pas beaucoup d'autres figures de la politique. Maintenant, c'est quasiment l'inverse. Ce sont les libéraux qui sont les derniers Mohicans.
Je pense que là aussi, beaucoup de nos concitoyens ont touché du doigt les effets d'une globalisation économique. Alors, tant pour ses conséquences environnementales, mais pour ses conséquences sociales. Avec des délocalisations, des fermetures d'usines, des flux logistiques à n'en plus finir, et beaucoup de Français constatent peut-être les limites de ce modèle. Regardez l'attitude très particulière qu'ont eu les Gilets jaunes vis-à-vis d'une entreprise comme Amazon, hein, où toutes les plateformes logistiques Amazon ont été systématiquement ciblées, et quelque part, nous on avait dit, on a la France du bon coin versus la France Amazon, les gens qui se vendent à des prix modiques des produits entre eux sur un périmètre restreint versus cette très grande entreprise qui fait tourner les produits sur toute la planète et qui emploie certes des milliers de salariés, mais dans des conditions difficiles. Et donc, je pense que là, avec le syndrome Amazon, on a un élément de réponse sur les limites de cette globalisation économique qui apparaît de plus en plus évidente à pas mal de gens.
Oui, ou alors l'archipel français avec ses difficultés de retrouver de la cohérence là-dedans. Parce que, alors c'est pas un chiffre français, c'est un chiffre américain, mais aux États-Unis, il faut, ou on peut s'abonner à un service qui permet d'être livré plus rapidement chez Amazon, Amazon Prime, c'est la moitié des ménages américains. Si on a affaire à deux France, alors vous vous dites la France du bon coin contre la France d'Amazon, qu'est-ce qui se passe ensuite, Jérôme Fourquet? Parce que les 30 Glorieuses, le Fordisme, c'était impact général. Comment trouver aujourd'hui impact global?
C'est toute la difficulté. On le voit. En Grande-Bretagne, un essayiste s'appelle David Goodhart a sorti, le livre va sortir
qui était
en France. Voilà.
L'invité des matins la semaine dernière.
Ben écoutez, voilà, c'est décidément une belle antenne. A montré cet affrontement entre les somewhere et les anywhere. On est là-dessus aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le bon coin contre Amazon, c'est ça.
Ceux qui sont nés quelque part et qui sont heureux d'être quelque part, et ceux qui sont bien partout.
Et ceux qui ont une capacité à se projeter partout. Quand vous voyez que un candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, inscrit dans son programme, ce qui peut être louable, le fait que chaque jeune Parisien à la sortie du collège puisse maîtriser l'anglais en disant c'est absolument vital. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on a ce type de proposition dans une campagne municipale. Ça montre bien que on est sur un îlot qui est déjà dans un schéma post-national, alors que l'essentiel de la société française, une grande majorité des Français, résonne encore dans un cadre national, voire départemental. Rappelez-vous, encore une fois, le conflit des Gilets jaunes, le nombre de drapeaux régionaux qui ont fleuri sur les ronds-points ou dans les cortèges, et également tous ces Gilets jaunes qui avaient inscrit au marqueur le numéro de plaque minéralogique de leur département sur leur dossard, en disant « moi je suis du 45, moi je suis du 72, etc. etc. » Donc ils résonnent encore dans cet univers-là, alors qu'on a toute une partie de la population qui dirige, qui est déjà dans un univers beaucoup plus globalisé, et c'est une incompréhension qui est majeure.
Mais alors ça veut dire, et ce sera la question de la fin, Jérôme Fourquet, qu'il y a aujourd'hui une élite déconnectée ou une élite qui n'a pas du tout intérêt à être connectée au peuple, puisque finalement les choses se passent plutôt bien pour elle?
Alors, plutôt bien pour elle, sauf quand le peuple vient sous ses fenêtres, et c'est ce qui s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes, où vous avez vu que c'était d'abord et avant tout les centres-villes les plus commerciaux, les plus prisés, à Paris comme à Bordeaux ou ailleurs, qui ont été la cible de ces Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une fracture qui va devoir être soldée, et c'est ça aujourd'hui la question. C'est comment on arrive à essayer de ressouder les différents points de vue.
L'archipel français, c'est votre livre aux éditions du Seuil.